dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'Écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission du jeudi 16 janvier 2025. Dans l'émission de ce jour, nous parlerons de questions environnementales. En seconde partie d'émission, nous entendrons un entretien avec le géographe suédois Andreas Malm. Mais en ce début d'émission, nous nous rendons en Seine-et-Marne, car ce 9 janvier 2025 se tenait l'audience sur le fond au tribunal administratif de Melun concernant le recours déposé le 17 mai 2024 par la régie Hauts-de-Paris contre l'arrêté préfectoral autorisant de nouveaux forages pétroliers sur le site Bridge Energy de Nonville en Seine-et-Marne. Alors que la concession Bridge Energy est située dans le périmètre de la réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, classée par l'UNESCO, située à 1,5 km en amont du point de captation d'Hauts-de-Paris. Ces nouveaux forages font peser d'importants risques pour l'alimentation en eau de 180 000 parisiens et parisiennes et des habitants et habitantes de la commune de Villemaire. Ils constituent aussi des risques de pollution de la rivière du Lunin, zone Natura 2000 et de la nappe phréatique du Champigny. Ils sont également en contradiction avec les engagements de la France à sortir des énergies fossiles et mis ainsi à la lutte contre le dérèglement climatique. Le 13 octobre 2024, 6 associations, dont France Nature Environnement, Île-de-France et France Nature Environnement 77, les Amis de la Terre France, Notre Affaire à tous, le réseau Action Climat et Reclaim Finance, ont déposé 2 interventions volontaires au soutien du recours initié par Eau de Paris et de leur côté, 6 communes de Seine-et-Marne et 2 syndicats des eaux ont fait de même. Nous étions à cette audience et nous allons entendre maintenant le reportage réalisé ce 9 janvier 2025 à Melun.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-François Dupont, co-président de FNE Seine-et-Marne. Merci d'être venus si nombreux, on ne peut pas être beaucoup plus nombreux sur le trottoir. Donc c'est aujourd'hui l'audience du référé déposé par la Régie Hauts-de-Paris et soutenu par un certain nombre d'associations ici présentes et aussi des maires du secteur de Nonville, le réseau Bocage, Nemours, etc. Donc nous sommes rassemblés aujourd'hui pour bien rappeler que nous nous opposons à ces nouveaux forages pétroliers. Pour ce qui concerne la Seine-et-Marne, je rappelle que c'est un combat de longue haleine puisqu'on a déjà bataillé contre cette même société il y a 3 ou 4 ans. On avait réussi à bloquer un projet. La Seine-et-Marne était un pays, un Eldorado pour le pétrole, puisqu'il y a à l'heure actuelle presque une vingtaine de puits de pétrole en exploitation. Ça dure depuis les années 50. Donc il est temps que ça se termine. Et c'est maintenant qu'il faut couper les robinets et pas dans un an ou deux ans ou en 2030, comme le disent nos ministres, parce que c'est pas la peine de laisser couler des petits robinets de rien du tout et de saloper l'environnement. Voilà, et je passe la parole au suivant ou à la suivante.
Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Annalena Rebaud des Amis de la Terre France. On est ici aux côtés de plein d'associations qui se mobilisent contre les nouveaux projets de forage pétrolier à Nonville, en Seine-et-Marne. Donc on est devant le tribunal administratif de Melun, parce que l'audience va avoir lieu aujourd'hui. On est 6 associations à s'être joints au recours de d'autres paris, aux côtés également de plusieurs communes limitrophes de Nonville. Moi, rapidement, je voudrais juste... donc on va parler aussi des impacts locaux et des risques pour l'eau de ces projets, mais juste rappeler une première évidence, qui est celle de la nécessité de sortir des énergies fossiles. Plus aucun nouveau projet d'extraction de pétrole ou de gaz ne peut avoir lieu aujourd'hui. Et ça, c'est une évidence qui est mise en avant par les scientifiques depuis plusieurs années, également par l'Agence internationale de l'énergie qui, depuis 2021, a bien répété à plusieurs reprises qu'aucun nouveau projet ne pouvait voir le jour. Et rappeler une deuxième évidence, ou plutôt une deuxième catastrophe en cours. L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée et on a probablement dépassé le fameux seuil fatidique de l'augmentation des températures de 1,5 degré. Qui n'est pas juste un chiffre. Entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement, on parle de millions de vies impactées. Et là, on part sur des seuils d'emballement qu'on ne maîtrise plus. Donc vraiment, rappeler une dernière fois cette évidence, plus aucun projet de pétrole ou de gaz ou de charbon ne peut voir le jour, que ce soit à Nonville, que ce soit ailleurs en France ou que ce soit ailleurs dans le monde.
Alors, ce 9 janvier 2025, on est devant le tribunal administratif de Melun, car aujourd'hui a lieu une audience sur le fond concernant le recours donc déposé le 17 mai dernier sur le de nouveau donc forage pétrolier sur le site donc de Nonville. Et on va en parler avec une personne qui a suivi cette lutte et je vais laisser le soin de se présenter.
Oui, bonjour, je m'appelle Pascal Demierre, je suis militant Greenpeace, mais avant tout, j'habite près de Nonville, dans une collectivité qui s'appelle Loral Bocage. Je suis un voisin de Nonville, donc là où le projet de forage se développe. Alors, il s'agit d'un projet qui est piloté par la société Bridge Energy. C'est une petite société qui a une concession d'exploration production de pétrole depuis un certain temps, depuis 2009 de mémoire. Donc c'est une concession qui dure sur 30 ans. Et le préfet de Seine-et-Marne a autorisé en 2024 l'extension de cette concession avec une autorisation de forer 2 puits de pétrole supplémentaires. Alors ce projet évidemment a suscité beaucoup d'émoi localement parce que d'une part, le forage traverse 2 aquifères dans lesquels de l'eau potable est pompée pour alimenter 180 000 personnes en région parisienne, donc par l'intermédiaire de la société Eau de Paris qui distribue l'eau à Paris. Et puis bien sûr, toutes les collectivités alentour, Nonville, Laurel-Bocage, Villemaire, enfin bref, toute une population locale. Pourquoi est-ce que les associations Eau de Paris et puis les collectivités se sont mobilisées? Parce qu'il y a, bien sûr des risques de pollution importants. D'une part, comme je l'avais indiqué, le forage traverse les aquifères, donc avec un risque de pollution, évidemment des aquifères qui seraient absolument dramatiques pour la population.
Et les aquifères, on peut rappeler ce que
c'est? Alors, les aquifères, ce sont des nappes d'eau hein, qui sont souterraines, dans lesquelles on puise de l'eau potable qui sert ensuite à alimenter les populations en eau potable. Et deuxième risque important, c'est que ce qui arrive aujourd'hui, c'est que la raffinerie de Seine-et-Marne qui existait auparavant a fermé. Et dorénavant, le pétrole qui est exploité via ces forages à Nonville est transporté au Havre pour être affiné. Donc avec évidemment toute une kyrielle de véhicules qui arpentent les routes avec le risque induit, donc de collision, de risque de pollution. Et ça, c'est absolument insupportable au moment où précisément la France avait indiqué qu'elle souhaitait sortir des énergies fossiles. Donc nous sommes tous mobilisés contre ce projet. Aujourd'hui, c'est donc l'audience sur le fond du recours d'Eau de Paris et nous espérons bien que nos arguments seront entendus et que précisément ces autorisations de forage seront supprimées tout simplement.
Ce projet, il est porté par qui?
Alors le projet de forage est porté par cette société Bridge Energy, qui est une petite société qui souhaite simplement faire de l'argent et donc tous les moyens sont bons.
Vous pouvez situer un petit peu où se trouve Nonville en Seine-et-Marne ?
Alors Nonville, c'est à 5 km à peu près de la forêt de Fontainebleau, donc à, on va dire au sud-est de Fontainebleau, donc c'est très proche du massif forestier de Fontainebleau au sud de la Seine-et-Marne.
Qui est protégé Natura 2000, je crois.
Alors, il y a effectivement une zone Natura 2000, et puis il y a surtout la forêt de Fontainebleau qui est donc inscrite à l'inventaire de l'ONU, et donc tout ce patrimoine naturel est bien sûr extrêmement sensible à la pollution, et c'est un argument supplémentaire qui nous fait dire que ce type de projet ne devrait pas exister.
Comment les maires aux alentours se positionnent et quelles ont été les actions qui ont été menées depuis que ces deux forages ont été autorisés?
Alors les maires sont vent debout. Les maires ont d'ailleurs se sont associés pour soutenir l'action d'Haute Paris dans le recours que porte Haute Paris. Des réunions publiques ont été organisées localement, des réunions qui accueillent beaucoup de monde pour entendre évidemment les arguments des uns et des autres, enfin notamment des arguments contre ces projets-là. Et puis une pétition également a été mise en œuvre qui a recueilli 35 000 signatures. Donc la population locale se mobilise.
Là donc il y a ce matin cette audience au tribunal administratif. Qu'est-ce que vous en attendez ?
Eh bien, on en attend tout simplement une annulation des autorisations de forage. C'est aussi simple que ça.
Si la justice, on sait qu'elle est faite par les puissants pour les puissants, si jamais effectivement il n'y avait pas de... Si ça n'allait pas dans un sens positif, quelle serait la suite que vous donneriez ?
Alors nous resterons mobilisés. Alors, effectivement, notre action va dépendre de la suite que donnera le tribunal au recours de Paris. Si la suite nous est défavorable, nous continuerons à nous mobiliser. Comme l'a formulé tout à l'heure le directeur de Paris, eh bien, nous associerons au recours qui seront de toute façon portés par Haute Paris sur les différentes instances juridiques qui seront susceptibles de nous entendre.
Alors il semblerait quand même que la Seine-et-Marne est un peu une terre de recherche de nouvelles sources d'énergie, puisqu'il y a quelques années, dans les années 2000, si je me souviens bien, il y avait déjà une tentative d'extraction de pétrole de schiste. Donc on sent quand même que la Seine-et-Marne, c'est un espèce d'Eldorado un peu pétrolier.
Alors la Seine-et-Marne a effectivement été un Eldorado pétrolier, entre guillemets, hein, soyons mesurés tout de même. Maintenant, le problème, c'est ce que je disais, c'est que la raffinerie qui accueillait ce brut a fermé. Et aujourd'hui, c'est un non-sens de transporter par voie routière tout ce pétrole en Normandie pour qu'il soit raffiné.
Bonjour à toutes et tous. Clara Sanicolo, je travaille pour le réseau Action Climat. On est une des associations qui se sont jointes au recours d'Haute Paris. Qui sera donc examiné ce matin au tribunal. Moi, ce que je voudrais rappeler ce matin, au-delà du constat qui, vous l'avez vu, est partagé par les scientifiques, il est partagé par les associations, par Haute Paris et par les collectivités qui, ensemble, se joignent pour dire non à cette extension du forage pétrolier à Nonville. C'est aussi qu'en parallèle de ça, notre président de la République a annoncé que la France serait parmi les premiers pays à se détourner de sa dépendance aux énergies fossiles. Ça, c'était l'année dernière. Et dans le même temps, le préfet de Seine-et-Marne, donc représentant de l'État dans le territoire, en fait, donnait cette autorisation pour l'extension du forage sur le territoire de Nonville. C'est un non-sens absolu, du fait notamment de nos engagements internationaux. C'est aussi un paradoxe total, alors que l'Île-de-France fait partie des territoires français qui se réchauffent le plus et qu'on commence d'ores et déjà à y voir les premiers impacts du changement climatique. Le dernier en date notable, c'était par exemple la tempête Kirk à l'automne, au mois d'octobre, qui a fait des inondations monstres sur le même territoire de la Seine-et-Marne. Donc en fait, dans ce territoire qui est déjà super impacté, et Annalena l'a bien rappelé, ça veut dire des milliers de vies qui sont impactées, des habitations, des infrastructures publiques, privées dont on dépend pour notre quotidien sont impactées par ces conséquences du changement climatique. Dans ce même territoire, on va en fait en augmenter encore les causes en, en étendant des forages pétroliers, alors qu'aujourd'hui, non seulement il ne faut plus ouvrir de nouveaux forages, mais même il faut se détourner des forages existants et des fossiles, des ressources en fossiles qu'on exploite actuellement, si on veut limiter l'emballement du changement climatique. Voilà, donc c'est ce mot que je voulais vous partager aujourd'hui, et merci encore à toutes et tous d'être présents.
Bonjour, Adeline Paradez pour Notre Affaire à Tous. Du coup, mon association est aussi intervenante volontaire dans le cadre de ce contentieux, notamment pour justement soutenir cette idée que aujourd'hui, en fait, il existe un consensus au niveau des scientifiques sur le fait qu'il n'est plus possible d'augmenter les capacités extractives en matière d'énergie fossile si on veut un monde à plus 1,5 degré, voire même à plus 2 degrés. Or, notamment la Cour européenne des droits de l'homme, cette année, dans l'affaire Climat Signorinon, a énoncé que le changement climatique à plus 1,5 degré, au-dessus d'un plus 1,5 degré, est une menace existentielle pour l'humanité, et donc menace et viole les droits fondamentaux des citoyens et des citoyennes. Et donc, pour que les gouvernements respectent leurs obligations en matière de respect des droits fondamentaux, il est obligatoire de mettre en place une politique cohérente avec une trajectoire d'augmentation à plus 1,5 degré maximum. Aujourd'hui, il existe un consensus scientifique sur le fait que toute augmentation de ces capacités extractives est en violation totale avec une trajectoire à plus 1,5 degré, voire plus 2 degrés, et donc en violation de nos obligations qui sont liées à la Convention européenne des droits de l'homme, mais pas seulement, aussi nos obligations qui sont liées à notre charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle et qui dit à l'article 1er qu'on a le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré, y compris, et ce droit est valable notamment pour les générations futures. Et donc, aujourd'hui, nous pensons que toute nouvelle autorisation qui augmenterait ces capacités extractives serait en violation directe des droits fondamentaux qui s'imposent à l'État.
Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette audience qui va se dérouler dans quelques minutes et pour laquelle j'aurai le plaisir de représenter les associations intervenantes, les Amis de la Terre et Climat Finance et FNE Île-de-France et Seine-et-Marne. Et le RAC également, évidemment. Voilà, il y a déjà des choses qui ont été dites et qui sont tout à fait pertinentes. Nous, on est là pour dire que ce type de dossier n'est pas possible, n'est plus possible aujourd'hui par rapport aux engagements climatiques de la France, vous le savez, par rapport à sa diplomatie énergétique, par rapport aux limites des techniques de captation de CO2, également d'un point de vue juridique, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que vous avez une réforme en tout cas, du droit de l'environnement vis-à-vis de ces titres miniers qui est complètement neutralisé par un préfet qui continue de délivrer ce type d'autorisation sous l'ancien régime, un régime qui est moins protecteur, qui est plus compliqué et qui fait que dans un cas bien particulier comme celui-là, avec le Lunin, avec les espaces protégés, avec les corridors écologiques, avec tout ce qui convient de protéger aux alentours, donc c'était à la fois un problème international mais également local, et qui ne devrait pas avoir lieu, devrait être parfaitement interdit par le préfet. C'est ce que nous allons défendre dans quelques minutes à l'audience si vous y participez. Merci.
Bonjour à tous, donc Dan Lair, président de la Régie de Paris, adjoint à la maire de Paris, chargé de l'eau. Je vais être très rapide parce que je réagirai après l'audience. On va d'abord essayer d'entendre les conclusions, notamment du rapporteur public. Ce que je voudrais rappeler ici devant le tribunal administratif de Melun, c'est que ce qui se prépare du côté de Nonville avec les forages pétroliers qui ont été autorisés par le préfet de Seine-et-Marne, c'est une catastrophe écologique en puissance. Catastrophe écologique en puissance puisque ces nouveaux forages pétroliers qui ont été autorisés par le représentant de l'État sont autorisés dans le périmètre de protection de captage d'eau potable stratégique. Ces captages d'eau potable, ils alimentent 180 000 personnes en eau potable. Donc ces forages, ils sont localisés dans la commune de Nonville. On est dans la vallée du Lunin, une zone environnementale qui est très sensible aux pollutions. On est à 5 km de la forêt de Fontainebleau. Et les risques de pollution sont très élevés. D'abord au moment du forage, puisqu'il faudra passer à travers des nappes phréatiques pour aller chercher le pétrole à 1500 mètres de profondeur, et ensuite au moment de l'exploitation de ces puits pétroliers. Et on ne parle pas de risques hypothétiques, on parle de risques qui sont avérés. Il y a déjà eu deux incidents majeurs sur la plateforme pétrolière de Nonville. En 2013, avec le déversement d'un camion qui était chargé en hydrocarbures, on est à 200 mètres du Ludin, donc encore une fois, une zone très sensible aux pollutions. Et puis en 2022, on a eu un incident, une fuite importante sur la plateforme pétrolière en elle-même, qui a occasionné des déversements d'hydrocarbures dans cette zone. Tout ça pourquoi ? Pour des forages pétroliers avec une production qui est absolument dérisoire, et ça a été dit tout à l'heure, en contradiction totale avec ce que recommandent les scientifiques du GIEC, avec les experts de l'Agence internationale de l'énergie. Plus aucun projet d'extraction d'énergie fossile ne devrait avoir lieu, ni en Seine-et-Marne, ni ailleurs, ni en France, ni partout dans le monde. Donc on est ici avec Haute-Paris, on a demandé l'annulation de ces autorisations de forage. On espère que le tribunal administratif va répondre à ces demandes. Ce que je peux dire avant les conclusions qui vont être données par le rapporteur public, et après on aura le délibéré, c'est que nous allons épuiser toutes les voies de recours internes et nous demanderons instamment l'annulation de ces autorisations de forage et l'abandon de toutes les concessions pétrolières partout en France, la fermeture des concessions pétrolières partout en France, en particulier, mais c'est pas uniquement, en particulier quand elles sont situées à proximité de captages d'eau stratégique, encore une fois, qui alimentent 180 000 personnes en eau potable. Donc je réagirai après avoir entendu les conclusions, et je remercie les collègues des six collectivités qui interviennent au recours, les associations évidemment qui sont intervenues volontairement en appui du recours juridique qui a été fait par Haute-Paris, et j'espère qu'on aura très rapidement des bonnes nouvelles. De toute façon, on est très déterminés, on ira jusqu'à l'annulation de ces forages, et on ira évidemment au niveau européen si ce n'est pas gagné au niveau français. Merci.
Oui, alors Greenpeace Île-de-France est ici en soutien à cette lutte. Pourquoi ? Et je pense que ça a été largement dit, parce qu'il y a deux enjeux très forts. Il y a un enjeu d'abord qui est bien sûr l'eau et le pétrole, mais il y a deux enjeux très forts dans ces luttes. Savoir qu'il y a des puits de pétrole à 10 km de chez soi, un certain nombre de personnes le découvrent. Savoir que ça peut menacer l'eau qu'ils boivent, un certain nombre de femmes et d'hommes le découvrent. Et la deuxième chose, c'est que ça montre concrètement sur le terrain que des discours, des engagements pris dans lors des COP, des discours du gouvernement français, sur le terrain, ne sont pas respectés. Et donc, ça nous permet de démontrer, de forcer à aller plus loin. Et ce qui a été dit, c'est qu'il faut absolument interdire tout nouveau projet de forage. Ici et ailleurs, il y a dans ce cadre-là une deuxième lutte sur laquelle, qui est en cours, qui est qu'aujourd'hui, à Bordeaux, à côté du bassin d'Arcachon, à la Teste de Buch, vous avez 8 nouveaux projets de pétrole qui devraient être autorisés. On attend la décision du ministre, qui est aussi une catastrophe pour l'environnement, qui est une catastrophe pour évidemment pour le climat. Donc cette lutte ici est non seulement importante localement pour la région, pour Paris, mais aussi pour la France et au niveau international. Cette lutte locale, de ces luttes locales s'ancrent les luttes globales. Merci.
Donc les conclusions du rapporteur public qui préconise un sursis à statuer confirment qu'on a eu raison, enfin que Haute-Paris a eu raison d'attaquer les autorisations de forage pétrolier devant la justice. Ces conclusions, elles montrent plusieurs choses. Elles montrent que le dossier de Bridge Energy est incomplet, notamment au niveau des garanties financières de la société, et qu'il est fragile juridiquement, notamment en ce qui concerne l'impact sur la biodiversité. Donc ça a conduit le rapporteur public à demander un sursis à statuer pour régulariser l'autorisation qui a été née. J'aurais préféré que le rapporteur public demande l'annulation des forages qui sont situés à proximité immédiate de captages stratégiques pour Haute-Paris qui alimentent 180 000 habitants en eau potable. Ça va prendre plus de temps, manifestement. Nous sommes déterminés à exploiter toutes les voies de recours pour faire annuler ces forages qui sont dangereux pour la ressource en eau. Ce que j'ai constaté aujourd'hui, c'est que l'État, à travers le représentant de l'État qui était présent, s'entête à soutenir les forages pétroliers en France et en particulier à Nonville, près des sources stratégiques d'eau de Paris, d'eau potable. Au-delà de l'aspect juridique de ce dossier, la seule décision qui a du sens et que j'attends, c'est que le nouveau gouvernement retire ses autorisations, retire ses autorisations de nouveaux forages pétroliers et ferme les concessions pétrolières qui sont à proximité de sources d'eau potable. C'est la seule décision qui a du sens à nos yeux. Et ce qui est marquant, et ce qui ne m'étonne pas beaucoup dans ce qu'a dit le rapporteur public, c'est que le rapporteur public ne relève pas le fait que ces forages pétroliers sont situés dans un périmètre, à l'intérieur d'un périmètre de protection de sources d'eau potable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2024, il est possible de forer du pétrole à proximité directe de captage d'eau potable stratégique dans une zone Natura 2000. Ça, c'est possible en 2024. Donc ça ne m'étonne pas ce qu'a dit le rapporteur public ou ce qu'il n'a pas dit. Ça montre simplement que l'arsenal juridique ne protège pas du tout les captages d'eau potable en France. Et ce dossier non-ville, c'est le même dossier qu'on a partout ailleurs avec les forages pétroliers qui sont situés à côté de l'eau, montre que nous avons besoin d'une nouvelle loi pour sanctuariser les captages d'eau potable. Sanctuariser les captages d'eau potable et les protéger de toutes les pollutions industrielles et notamment pollution aux hydrocarbures. On marche sur la tête dans l'entêtement du gouvernement à soutenir les forages pétroliers en France.
Il semblerait que ait été mis en question le plan local d'urbanisme. Vous pouvez donner un peu quelques précisions là-dessus?
Alors là, le plan local d'urbanisme qui a été adopté, qui a été révisé et adopté par la commune de Nonville et son maire, et donc Jean-Claude Belliot, évidemment, ne soutient pas de nouveaux forages pétroliers. Enfin, le maire de la commune, Jean-Claude Belliot, est avec nous dans l'intervention juridique pour faire annuler ces forages. Donc l'argument tiré du fait qu'il y aurait un soutien à travers le PLU et une reconnaissance, une autorisation finalement, entre guillemets, donnée à ces nouveaux forages pétroliers est infondé et complètement absurde dans la bouche du rapporteur public et dans la bouche des avocats de la société Bridge Energy.
Il a été aussi évoqué la question d'une pollution aux pesticides, cette comparaison d'une pollution aux pesticides au niveau des captages et de la pollution aux hydrocarbures qui pourrait avoir un impact finalement beaucoup plus grave que d'une pollution aux pesticides.
Oui. En tout cas, ce qu'on dit depuis le début avec Eau de Paris, c'est qu'une marée noire sur le Lunin ou une contamination de la nappe au moment du forage aurait des conséquences irréversibles et condamnerait l'utilisation de la ressource en eau, encore une fois, qui alimente 180 000 habitants en eau potable. Ça aurait des conséquences irréversibles. On ne pourra pas, en cas d'une pollution massive, par exemple du Lunin, hein, Lunin, vallée du Lunin, classée Nature à 2000, le Lunin en amont de nos sources d'eau, hein, qui passe dans le champ captant d'eau de Paris, on ne pourrait pas réparer. Et donc ça condamnerait pendant des années l'utilisation de ces ressources en eau potable.
Et vous aviez dit tout à l'heure que vous souhaitiez aussi agir au niveau européen, au niveau des recours. Si vous, tous les recours, ça veut dire jusqu'au...
On aurait aimé, dans la bouche du rapporteur public, obtenir l'annulation de ces... Enfin, avoir la demande d'annulation de ces forages pétroliers. Mais on va épuiser toutes les voies de recours internes. Et après, une fois qu'on aura épuisé toutes les voies de recours internes, on ira jusqu'au niveau européen pour faire reconnaître l'absurdité et la catastrophe écologique en puissance que représentent ces forages pétroliers situés à proximité de ressources en eau. Et on fera valoir évidemment ces arguments, quel que soit l'échelon national et européen.
C'est vrai qu'il y a un paradoxe entre les textes et la réalité.
Il y a un paradoxe entre les textes. Il y a un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, j'ai constaté que l'État s'entête à soutenir des forages pétroliers en France près de sources d'eau qui sont stratégiques. Et la seule décision qui a du sens, vraiment la seule décision qui a du sens aujourd'hui et que j'attends, c'est que le nouveau gouvernement retire ses autorisations et ferme les concessions pétrolières existantes en Seine-et-Marne. On a eu la description, la production attendue de ces forages, 0,7% de la consommation nationale. Donc pour une production dérisoire, on prend des risques immenses pour la ressource en eau qui concerne 180 000 habitants. C'est ça l'absurdité. Et donc on a une catastrophe écologique en puissance. J'aurais évidemment préféré que le rapporteur public préconise l'annulation de ces forages. Et s'il ne l'a pas fait, c'est que ça montre l'insuffisante protection des captages d'eau en France. Aujourd'hui, en France, en 2024, le gouvernement s'entête à soutenir des forages dans le périmètre, à l'intérieur du périmètre de protection de nos sources en eau potable. C'est quand même ça ce qui est dit. Donc il y a un entêtement du gouvernement.
La décision sera prise dans 3 semaines, c'est-à-dire fin janvier, début février.
Et fin janvier, début février, on saura quelle est la décision du tribunal, s'il y a un sursis à statuer, s'il peut y avoir aussi d'autres types de décisions. Hein. Ça peut être, en général, il y a le rapporteur public est assez majoritairement suivi, mais le tribunal peut décider d'annuler, il peut décider de faire autre chose.
Voilà, donc on était à la sortie de l'audience qui avait lieu ce 9 janvier 2025 sur l'extraction de pétrole à Nonville et sur l'arrêté préfectoral autorisant de nouveaux forages pétroliers sur le site de Bridge Energy à Nonville. Et vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes sur antenne de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et ce jusqu'à 13h30.
Ils vendent les coquillages de bord de mer, comme ils ont vendu l'eau, prêts à troquer leur mère, ces salauds. Ils vendent le sable fin, les algues, et ils conviennent, pour s'enrichir de breveter les couleurs et l'oxygène. Ils vendent aux plus offrants, mais n'offrent rien, jamais de cadeau, sauf pour un abonnement de bienvenue à tous leurs idéaux. Ils vendent les hymens de jeunes vierges sur la planète, et les mains ouvrières de jeunes enfants analphabètes.
Ils vendent tous les combats d'hier, les acquis des grands-pères. Ils vendent ce qu'ils rejettent, tous leurs déchets nucléaires. Ils vendent des dictatures et de l'or noir dans les assiettes, des mètres cubes d'air pur, et ils ont décidé que ça s'achète.
Ils vendent même le sacré, le visage des guerriers, les slogans des révolutions en période de promo. Ils vendent les symphonies aux opérateurs de mobiles, aux pays du tiers-monde, ils vendent leurs vieilles automobiles.
Ils vendent tous les progrès passés et leurs vieilles maladies. Ne dévoilent jamais les secrets de leur belle pharmacie. Ils vendent la solidarité, les pièces jaunes des grands-mères. Préfèrent la charité, ont inventé l'humanitaire.
Ils vendent coûte que coûte tout ce qui leur coûte et même l'écoute. Vendent tous les engagements, même les mots, leur langagement. Ils vendent à coup de publicité des espoirs sans lendemain. Au public des cités à qui ils ont lié les mains.
Ils vendent la peau de l'homme et bien avant de l'avoir tué. L'ours, le loup et l'orme sont des espèces du temps passé. Ils vendent des marées noires et sacrifient les littoraux. Dans l'arène des gueulards, ils vendent l'agonie des taureaux.
Ils vendent de vieilles constitutions aussi malades que leur système. Ils condamnent la contestation dans des tribunaux qu'ils enchaînent.
Ils vendent depuis toujours le travail des travailleurs. On vend du nos vieux jours des mots Warcom. L'universel. Les clergés revanchards sont toujours une bonne clientèle. Ils ont vendu la signification du mot public. Celui qui s'oppose aux lois de l'argent est archaïque.
Ils vendent aux oreilles innocentes que des chansons sans âme. Pourvu qu'elles soient divertissantes, ils endorment le quidam. Ils vendent au grattage, au tirage, à la française des bœufs. On se gratte, ils nous tirent, jamais d'affaires, c'est pas du jeu.
Ils vendent aux yeux bleus des mineurs, des poussières sans charbon. Ils percent au fond des cœurs, une existence sans fond.
Ils vendent aux sans-papiers des grillages, sans les griots. Les marchands de barbelés déménagent tous les idéaux.
Ils vendent le devenir, les grands primates en liberté. Les forêts séculaires, y'a plus d'endroits où se cacher.
Ils vendent des armes
à des kujats fanatisés.
Ils vendent des larmes
à des orphelinats entiers.
Ils vendent aux élites corrompues le pouvoir d'informer. Des bouquets satellites remplis d'épines empoisonnées. Ils vendent l'esprit critique à quelques philosophes mondains. Les chiens de garde de la pensée unique à poids pour rien.
Ils vendent des étiquettes cousues à même la peau des gens. Leurs marques sont des tatouages que l'on refuse aux indigents. Ils vendent à nos consciences un nouveau vocabulaire. Ne disent plus indigène, mais parlent de main-d'œuvre moins chère.
Ils vendent des rallyes arrogants, font le pari du Dakar. À chaque édition, des enfants écrasés par un char. Ils vendent leurs sommets capitaux en face des bidonvilles.
C'est chic.
Transforment une capitale le temps d'un enjeu olympique. Ils vendent.
Ils crient soldons, cédons. Qu'importe les périodes, ils ont même vendu les saisons.
Ont vendu les organismes, les cellules et les planctons.
Ils ont même vendu les saisons.
Vendu les saisons.
Nous allons continuer à parler des questions environnementales. En 2021, lors de la pandémie du Covid-19, des questionnements ont surgi. La crise sanitaire est-elle la conséquence du capitalocène ? Le capital fossile est-il responsable des catastrophes en cours ? Faut-il un communisme de guerre pour échapper au pire ? Le géographe suédois Andreas Malm, que nous allons entendre, tente d'apporter des réponses à ces questionnements en expliquant en quoi la crise sanitaire est aussi une crise politique et une crise du capitalisme. Il était alors l'invité en août 2021 du site d'information Le Média. Entretien que nous allons entendre maintenant.
Canicule, pandémie, incendie, inondation, nous ne comptons plus. Les manifestations de la crise écologique, le Covid-19 nous rappelle chaque jour à quel point les conséquences de l'effondrement écologique peuvent être désastreuses. Pour en discuter, nous avons invité une personnalité connue pour avoir développé le concept de capitalocène. Naomi Klein le décrit comme l'un des penseurs les plus originaux concernant le changement climatique. Ce géographe est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence dans le monde de l'écologie, l'anthropocène contre l'histoire, Le réchauffement climatique à l'ère du capital, comment saboter un pipeline, et plus récemment, La chauve-souris et le capital, stratégie pour l'urgence chronique. Il participe aussi au collectif Zetkin, un groupe de chercheurs et d'étudiants de différentes nationalités qui travaillent sur l'écologie politique. Ensemble, ils ont publié un livre, Fascisme fossile, l'extrême droite, l'énergie, le climat. Il s'agit de Andreas Malm, de passage sur le plateau du Média. Alors que nous vivons une crise du capitalisme, que les tensions interimpérialistes s'exacerbent, que les tentations autoritaires s'assument, que nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire, que la crise climatique et que la crise écologique prennent toujours plus d'ampleur, Andreas Malm s'interroge sur les liens entre ces crises. Est-ce qu'il ne s'agit pas finalement de plusieurs facettes d'une même crise ? Est-ce que nous ne nous apprêtons pas à vivre l'effondrement du capitalisme ? Ou est-ce que le capitalisme précipite la fin de notre espèce ? Voilà, par contre, Andreas est suédois, du coup on va poursuivre en anglais. Hi, bonjour Andreas Malm, comment allez-vous ?
Very good, happy to be here.
We have experienced a pandemic. On a vécu une pandémie comme l'espèce humaine n'en avait pas connue depuis un certain temps. Que dit cette pandémie de notre époque ?
Ça montre que quelque chose a mal tourné entre les humains et le reste de la nature. Quelque chose dans cette relation est tombé. Et plus fondamentalement, je pense que la question, c'est celle d'un système économique qui ne peut pas tolérer la nature sauvage, les animaux sauvages, ni la forêt, et les laisser en paix. Mais qui doit les soumettre à la production. Par exemple, en transformant une forêt tropicale en plantation de palmiers et en y produisant du pétrole, ce qui amène à entrer en contact avec des virus qui circulent naturellement, mais qui n'ont jamais croisé d'humains auparavant, et ce processus est en cours. Et il révélera certainement de nouveaux virus, de nouvelles maladies infectieuses, car la déforestation ne ralentit pas.
Why with this pandemic, why didn't we see any awareness among the population?
Après ce qu'on a connu avec le Covid, pourquoi n'y a-t-il pas une prise de conscience, une mobilisation sur la question de l'écologie, le Covid étant pourtant une démonstration de cette crise?
Je pense que l'une des raisons est que le mouvement pour le climat, qui a été le mouvement environnemental à l'avant-garde ces dernières années, a suspendu toutes ses activités lorsque la pandémie a surgi et est rentrée et a quitté la rue. Et le seul acteur qui aurait pu vraiment mettre en lumière la dimension écologique de cette crise, c'est le mouvement pour le climat et l'environnement. Il a été paralysé, toutes les discussions qui se sont focalisées sur les lieux où les gens devraient porter un masque, quand ils devraient rester à l'intérieur, quel genre de restrictions. Malheureusement, on n'a rien dit sur les causes de ce genre de maladie. Ces nouvelles maladies, ni comment s'assurer que ces choses ne se reproduisent pas.
Vous dites qu'on n'a pas réussi à parler d'écologie, à placer l'écologie à sa place au centre durant la pandémie. Est-ce qu'il fallait politiser la pandémie?
Oui, je pense que oui. Je veux dire que ça a été très politique tout du long. Mais l'accent a été mis sur le traitement des symptômes, pas sur les vecteurs. En fait, le facteur le plus important avec ces nouvelles maladies est la déforestation des régions tropicales. Et cette déforestation s'est accélérée massivement en 2020. On aurait pensé que même les plus riches auraient pu, en voyant un grave crash économique, tenter d'empêcher que ça ne se reproduise ou au moins de se demander ce qui cause cela. Et comment faire en sorte de ne pas faire face à une autre pandémie dans quelques années? Mais pas du tout.
Est-ce que c'est ce que vous appelez le capitalocène? Cette situation avec le Covid-19, avec tout ce qui est arrivé depuis, est-ce que ce ne serait pas justement une démonstration de ce qu'est le capitalocène?
Oui, on peut dire ça. De toute évidence, la notion de capitalocène a été développée avant la pandémie. Et dans un dialogue critique avec le concept de l'anthropocène, avec lequel les humains dominent les processus naturels sur Terre quand il s'agit de climat. De biodiversité, de distribution des espèces et de toutes les étapes des cycles biologiques et géochimiques. L'argument en faveur du capitalocène est que ce n'est pas l'espèce humaine en général qui a causé ces problèmes, en particulier pour la crise climatique, mais plutôt une manière particulière d'organiser les interactions humaines avec le reste de la nature, notamment à travers l'accumulation de capital, et c'est ce qui conduit à la crise écologique, et plus particulièrement à la crise climatique.
Vous parlez de capitalocène. Ce terme est-il plus juste que celui d'anthropocène?
Oui, puisqu'il est inexact de dire que cette période de l'histoire, ce crime historique qui désigne une nouvelle ère géologique, est un phénomène naturel. On discute encore à quand cette période remonte, mais ça fait un demi-siècle ou deux, peut-être, mais c'est une autre époque. Il est inexact de dire que cette nouvelle époque et tout ce qui l'accompagne, et en particulier la combustion de combustibles fossiles à grande échelle, résulte d'une série d'actions de l'espèce humaine et que toute l'humanité a participé à ce gâchis. En fait, historiquement, une toute petite partie de l'humanité a commencé à consommer des combustibles fossiles à grande échelle. Les habitants de Grande-Bretagne, et plus particulièrement les riches de Grande-Bretagne, imposent ce phénomène au reste de la population qui le répand à travers le monde avec beaucoup de problèmes. Et là, c'est devenu un phénomène mondial. Mais ce n'est pas toujours l'humanité dans sa globalité qui cause le problème. Par exemple, un rapport publié l'année dernière montre que 1% des plus riches de l'humanité a émis deux fois plus de CO2 que la moitié des plus pauvres de l'humanité entre 1990 et 2015. C'est une disparité incroyable au sein de l'espèce humaine. Et ces inégalités existent à toutes les échelles. Au sein des nations aussi, elles ne montrent aucun signe de diminution. Elles s'accroissent plutôt. Car les inégalités dans nos sociétés s'accroissent et en même temps la destruction de l'environnement s'accélère. Et ces phénomènes sont intimement liés.
So according to you, there is a big
Alors pour vous, il y a en particulier un ennemi, c'est le capital fossile. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus à propos du capital fossile, de quoi il s'agit ?
Le capital fossile, c'est tout simplement tirer profit de la production. Ou de la consommation de combustibles fossiles. Et le cœur du capital fossile, ce sont les compagnies pétrolières, gazières et du charbon. Vous en avez un parfait exemple en France avec Total, qui est la plus grande entreprise capitaliste de ce pays, qui ne peut pas continuer à exister en tant que société pétrolière et gazière. Elle doit être arrêtée, transformée en quelque chose de complètement différent.
Alors, le capital fossile, en fait, c'est le cœur du capitalocène.
Oui.
Selon votre opinion, il faudrait déclarer la guerre contre le changement climatique, n'est-ce pas ? Dans votre livre, vous écrivez qu'on a déclaré la guerre justement face au Covid-19 et qu'on devrait déclarer une même guerre contre le changement climatique. Est-ce que ce serait une guerre contre le capital fossile ?
Oui. Si vous prenez le cas de la France, les seules restrictions imposées aux gens par l'État français pendant la pandémie, ce sont les fermetures de restaurants, un couvre-feu, des choses comme ça. Or, ces mesures devraient être redirigées vers la source du problème. Dans le cas français, ce serait d'abord Total et l'État devrait empêcher cette entreprise d'exploiter toute forêt. Et ils font tout le contraire, puisque Macron soutient la construction de l'oléoduc est-africain et que Total veut le pétrole de l'Arctique. Pourtant, l'État français, de la même façon qu'Emmanuel Macron, a déclaré l'état de guerre contre le Covid-19. Il devrait dire que nous sommes en guerre contre le crime climatique et plus particulièrement que nous sommes en guerre contre la combustion de combustibles fossiles et que cette guerre commence par l'arrêt de la production de combustibles fossiles et l'effondrement de cette production. Pour moi, un point de départ très simple et basique serait de nationaliser Total et de dire aux entreprises de ne plus produire de pétrole ni de gaz. Vous parlez de communisme. Pour vous, il faut rentrer dans une phase de communisme de guerre ? Le communisme de guerre s'esquisse à partir d'une autre parallèle très courant dans les discussions sur le climat. Celui avec la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'État américain a organisé la conversion de la production vers les chars et autres matériels de guerre. Pour combattre Hitler. Le parallèle, c'est que nous devons faire quelque chose de similaire aujourd'hui. Nous devrions convertir et transformer la production pour lutter contre ceci. Cette analogie est bonne, mais elle est un peu lacunaire. Incomplète, car l'organisation de la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale n'a pas défié les intérêts occidentaux de la même manière que nous devons le faire maintenant. Les sociétés pétrolières et gazières et les compagnies de charbon doivent être complètement abolies. Et nous sommes dans une situation d'urgence absolue qui rend cela nécessaire. Le communisme de guerre était une situation en URSS où ce pays faisait face à des catastrophes, les unes après les autres, et devait écraser certaines des classes dominantes ou les fracturer, les éradiquer pour être capable de sortir de l'urgence. Nous sommes dans une situation similaire aujourd'hui. Les administrateurs de l'État, le pouvoir et la capacité de l'État devraient être redirigés vers la source du problème.
Vous parlez de communisme de guerre, mais sans parler de la classe ouvrière. Mais est-ce que ce communisme de guerre, est-ce que la solution écologique, la réponse, elle est possible sans la classe ouvrière, et en particulier la mobilisation de la classe ouvrière des centres pétroliers ? Mais est-ce qu'ils ne sont pas justement la clé ? En France, ceux qui mènent la lutte contre Total, les seuls qui remettent en cause Total, qui pointent la responsabilité écologique, climatique de Total, en mettant cette question au premier plan, eh bien, ce sont les raffineurs en lutte. Ils étaient d'ailleurs en grève récemment. Je les ai également reçus sur ce plateau pour parler de Total. Et leur slogan, c'est « Total fait du sale ». Ces ouvriers de Total, ce sont les seuls qui font la jonction internationaliste avec les peuples en Afrique, en Asie ou en Amérique, victimes de Total. C'est aussi le syndicat la CGT qui a condamné en France le pipeline africain de Total, notamment en Ouganda. Et ils sont également les seuls en France à pointer le caractère impérialiste et colonial de l'industrie pétrolière et notamment à poser la question de la prise de contrôle de la production. Et donc, ma question est, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avoir une réponse écologique sans eux ?
Non.
Non, on ne peut pas en avoir. Je suis très heureux et excité d'apprendre ces choses. C'est incroyablement prometteur. C'est différent dans d'autres pays. En Allemagne, par exemple, où la lutte est centrée dans les mines de charbon, les mineurs n'ont pas soutenu la revendication de fermer les mines. Et à la place, ils ont très fortement défendu les mines de charbon de cette industrie. Ce qui est dans un sens tout à fait compréhensible, car c'est là qu'ils ont leur emploi. Bien sûr, ils veulent garder leur emploi. Mais ce qui est vraiment la clé, c'est la conversion de l'industrie. Maintenant, c'est plus facile de convertir une entreprise comme Total à faire autre chose que convertir les mines de charbon en Allemagne. On ne peut pas vraiment faire autre chose avec une mine de charbon. Mais dans le cas d'une société pétrolière et gazière, cette société peut facilement faire autre chose, comme utiliser toutes ses compétences et technologies en pétrochimie pour extraire le CO2 de l'air dans le sol, plutôt que d'en pomper davantage. Je pense que vous avez raison de dire que dans ce secteur, un alignement, une alliance entre le mouvement climatique et les intérêts des travailleurs est absolument crucial pour avancer. C'est vrai aussi en dehors des sociétés pétrolières et gazières. Il doit y avoir ce genre d'alliance entre la lutte pour le climat et celle des travailleurs. Il y a cette lutte en France contre Total, mais il pourrait y en avoir aussi au Brésil ou peut-être en Afrique. C'est une lutte internationaliste ? Oui. Peut-on parler de communisme de guerre et de guerre contre le capital fossile sans parler de révolution ?
Non.
Non, je veux dire, ce n'est pas absurde en mettant l'accent sur le communisme de guerre plutôt que sur la révolution. Mais je pense qu'il y a des demandes très basiques qui doivent être formulées et mises en avant. Et quand vous serez obligé, au-delà de ces demandes, vous pourrez très bien engager un processus qui est révolutionnaire, dans le sens où ça se heurte à l'intérêt des classes dominantes, il y a ce choc. Mais dans l'intérêt des nouvelles installations pétrolières et gazières, cela entre en conflit avec ce que les entreprises veulent faire. Et dans ce conflit, évidemment, il y a un potentiel pour qu'un processus révolutionnaire émerge. Mais je ne pense pas que ce processus débute avec nous exigeant une révolution. C'est très rarement comme ça que les révolutions commencent. Le processus commence lorsque nous élaborons des demandes très simples, telles que l'arrêt des combustibles fossiles.
On parle de cette guerre contre le Covid-19, mais dans une société capitaliste.
Oui, nous sommes dans une société capitaliste, malheureusement. Le capitalisme est extrêmement fort et la gauche est généralement assez faible. Si nous comparons à d'autres périodes de l'histoire, et en même temps précisément pour cette raison, nous sommes confrontés à une urgence écologique extrême. Cela signifie que nous devons commencer à lutter contre cette urgence là où nous sommes et utiliser les instruments qui existent. Parce que ces instruments sont insuffisants, parce que les États ne sont pas à la hauteur de la crise, il se pourrait très bien que nous devions aller au-delà des institutions. Par exemple, récemment, un procès à la Cour de La Haye a ordonné à Shell de réduire ses émissions de 45% d'ici 2030. Nous ne savons pas si ce verdict sera appliqué et mis en œuvre. Si c'est le cas, c'est un exemple de la façon dont les mouvements peuvent utiliser l'État bourgeois existant pour attaquer l'ennemi. Si vous avez plus d'exemples de ce genre où le mouvement climatique, tout le mouvement social pousse les États à prendre les mesures nécessaires contre la production et la consommation de combustibles fossiles, encore une fois, vous démarrez un processus où les forces populaires deviendraient plus puissantes. face aux États et pourrait potentiellement, bien sûr, aller au-delà.
Ok, merci Andreas Malm. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour poursuivre cette discussion, peut-être en français la prochaine fois.
Maybe in French next time. Thank you.
Yeah, thank you.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine, sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassul, à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.